Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans la première épître de Pierre, première lettre de Pierre, chapitre 3. 1 Pierre, chapitre 3. On est dans une série. L'épître de Pierre nous apprend à vivre à contre-courant, à marcher à contre-courant. Dans notre pèlerinage ici-bas. Je pense à nos jeunes qui sont en week-end, là. Ils sont partis en Dordogne. On se réjouit aussi pour ce que Dieu fait pour eux. Ils sont souvent aussi appelés à vivre à contre-courant, comme nous tous. Je vous invite à faire la lecture tout d'abord, chapitre 3, versets 1 à 12. Femmes, que chacune soit de même soumise à son mari, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme, en voyant votre manière de vivre chaste et respectueuse. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme, comme avec un sexe plus faible. Honorez-la comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez point le mal pour le mal ou l'injure pour l'injure. Bénissez au contraire. Car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Si quelqu'un, et c'est là la citation du psaume 34, si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Vous l'avez compris, la démarche de l'apôtre Pierre ici, c'est de montrer qu'on doit marcher à contre-courant. On doit marcher à contre-courant en étant soumis aux autorités civiles. C'était le chapitre 2, verset 13, on a vu ça la semaine dernière. Même lorsque ces autorités civiles sont imparfaites. Et puis, il encourage les employés chrétiens à marcher à contre-courant en étant soumis à leur patron. Et ça, c'est encore un peu plus impliquant. On est souvent pas mal d'heures sous un patron. Même lorsqu'ils sont d'un caractère difficile. Et maintenant, chapitre 3, il évoque le fait de marcher à contre-courant dans le mariage. Et ça, c'est encore beaucoup plus sensible. Parce que ça touche ce qu'il y a de plus intime, de plus personnel. On ne s'attend pas, a priori, dans le mariage, à marcher à contre-courant. On ne s'est pas choisi pour ça. On a choisi quelqu'un qui partage notre foi, qui partage notre vision du monde. C'est quelqu'un que l'on trouve beau, belle. C'est quelqu'un avec qui on a suffisamment de points communs pour être unis et marcher dans la même direction. Pourtant, il arrive que nous vivions à contre-courant, même dans le mariage. La Bible est claire. Elle invite le chrétien à s'engager dans une relation amoureuse avec une chrétienne. Et ça ne souffre aucune exception. Par contre, il arrive que on se soit déjà engagé dans le mariage. Et que l'un se convertisse et l'autre pas. Hier, j'ai mangé avec un couple qui s'est converti ensemble. C'est fantastique, c'est merveilleux. Mais parfois, ça n'arrive pas. L'un se convertit et pas l'autre. Et nous voilà en train de marcher à contre-courant dans notre mariage. Où l'un des conjoints, parfois, se refroidit, désobéit, vit pour un temps sans Dieu. Et là, il nous faut aussi marcher à contre-courant, au sein même de son couple. Pierre, ici, va nous donner des principes qui sont valables pour toutes les circonstances, pour tous les couples, et qui sont particulièrement précieux pour les couples dans lesquels il n'y a pas, ou il n'y a plus, ou il n'y a pas encore d'unité en Christ. J'ai souvent prêché ce texte lors des mariages. Je l'ai encore fait cet été. Je vais essayer d'aborder cette fois-ci le texte en mettant en évidence des principes généraux qui sont particulièrement adaptés à la vie de couple, mais qui sont applicables à tous et à toutes. Donc si vous n'êtes pas marié, restez attentif. D'abord parce que ça peut vous arriver quand même, à tout âge. Et puis ces principes vous seront de toute manière très utiles. J'ai deux points aujourd'hui. Je ne sais pas comment j'ai fait, mais j'en ai que deux. Et le premier point, c'est que vos actes, souvenez-vous que vos actes sont plus forts que vos mots. On va regarder cela. Je suis très conscient que ces versets peuvent en choquer plus d'une. Verset 1, « Femme, que chacune soit de même soumise à son mari. » Toujours peur que dans les mariages, les gens se lèvent à ce moment-là. Mais non. Ça peut choquer, ça peut blesser. Remarquez bien, il dit au verset 1, « Sois de même ». Et le « de même », il fait référence à ces deux fois où il a demandé d'être soumis, au verset 13, chapitre 2, et au verset 18, aux autorités civiles, à votre patron, et maintenant à votre mari. De même. L'ordre dans la société, l'ordre dans le travail, l'ordre dans la famille, est donné pour éviter le chaos, le désordre dans ces différentes sphères. Et aussi pour être des témoins. La soumission envers les autorités, que ce soit civile et professionnelle, ou que ce soit dans le mariage, est l'expression de notre dépendance de Dieu, de notre confiance en Dieu. Je redis ça. La soumission envers les autorités est l'expression de notre confiance en Dieu. En un Dieu qui détient toute autorité. Bien entendu, il s'agit d'une soumission qui n'entre pas en conflit avec la volonté de Dieu, bien entendu. Jamais on doit obéir à un gouvernement, à un patron ou à un mari qui nous demanderait de pécher, d'aller contre sa volonté de Dieu. Vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Pourquoi réagissons-nous tellement à cette notion de soumission? En fait, parce qu'on ne veut pas reconnaître un homme qui intrinsèquement est mon égal comme mon supérieur ou comme dominant sur moi. On n'est pas prêt à cela parce que nous n'avons pas confiance dans cette personne, parce qu'elle est pécheur et potentiellement abusive. Marcher à contre-courant dans ce domaine, c'est possible pour le chrétien, parce qu'il fait pleinement confiance à Dieu. Et c'est parce qu'il fait pleinement confiance à Dieu qu'il accepte un patron, parce qu'il a un patron plus grand. Et Dieu domine, dirige, conduit ce patron ou ce mari difficile. J'ai cette confiance que ma vie n'est pas seulement entre les mains des hommes, de mon mari, de mon chef au boulot ou de mes parents. Ma vie est ultimement entre les mains de Dieu qui a montré son amour, sa puissance, sa sagesse en mourant pour moi et en ressuscitant des morts. Au premier siècle, lorsqu'un homme se convertissait à Christ, c'est toute sa maison qui devenait chrétienne. Par contre, lorsqu'une femme devenait chrétienne, son mari percevait généralement la conversion de sa femme comme embarrassante, comme un acte de défiance à son égard et susceptible d'occasionner de nombreux conflits. C'est encore le cas dans de nombreux pays et foyers. La conversion de l'un des conjoints suscite invariablement des incompréhensions chez l'autre. Et l'enthousiasme qu'on peut avoir à partager notre foi à celui qu'on aime ou à celle qu'on aime est importante, hein ? Elle est très bonne. Mais ce qui va être un facteur déterminant, ce sont les actes. Nos actes parlent plus fort que nos mots. Le poids des mots, le choc des photos. C'était le slogan de Paris Match. Le poids des mots, le choc des photos. Notre conjoint a besoin de voir le choc d'une vie transformée. Et l'un des actes qui touche le plus est la soumission. Je peux me soumettre à un chef difficile, à un mari grincheux, parce que le Dieu qui m'aime et qui est infiniment sage contrôle toutes choses, même les difficiles et les grincheux. Et ça, c'est puissant. Cette soumission reflète l'Évangile. Et voilà pourquoi un mari incroyant peut être gagné à l'Évangile sans parole par la conduite de son épouse. Parce que son attitude, l'attitude de son épouse, parle d'un Dieu qui est souverain. Un Dieu qui est juge des vivants et des morts. Un Dieu qui s'est lui-même soumis à un Père et qui l'a livré entre les mains des hommes pécheurs afin de remporter la victoire la plus grande qui soit, c'est-à-dire le salut de notre âme. Se soumettre de la sorte, c'est difficile. Ça nécessite une grande force. Ce n'est pas possible sans la puissance du Saint-Esprit en nous. C'est cela, marcher à contre-courant. Le deuxième principe sur lequel je voudrais m'attarder un peu plus ce matin, c'est que votre cœur est plus visible que vous ne le pensez. On voit ça dans les versets 3 à 7. Pierre encourage les femmes, à présent, verset 3, à développer leur beauté morale plus que de trop se soucier de leur apparence physique. Certaines personnes ont poussé cette vérité un peu trop loin, en ignorant totalement les coiffeurs, les bijouteries et les boutiques d'habits. Mais dans la culture gréco-romaine du temps de Pierre, comme dans notre culture aujourd'hui, les femmes attachent une grande importance à la parure extérieure. Et à vrai dire, aucun homme n'y est totalement insensible. Mais ça, ce n'est pas le propos de Pierre, ici. Il dit qu'il y a une parure qui est bien plus attirante pour un mari et que cette parure, c'est cette parure intérieure. Elle est certes cachée parce qu'elle est dans le cœur, mais elle finit par être très visible quand on vit ensemble. L'élégance n'est pas le moyen principal pour gagner le cœur de son mari, même un incroyant. L'apparence physique, c'est la partie la plus facile à changer. Ça coûte parfois un petit peu, mais il y a des spécialistes qui vous relookent tout, de A à Z, des pieds à la tête, passer chez le coiffeur, maquillage, nouvelle garde-robe, vous êtes relooké. Pour prendre un peu plus de muscles, perdre un peu de poids, ça prend un peu plus de temps, mais c'est quand même relativement accessible. Mais notre cœur est bien plus difficile à transformer. Ce que nous sommes, nos cœurs de pécheurs, notre caractère, nos blessures du passé, nos fausses conceptions, notre éducation, tout cela interagit dans nos cœurs pour produire de mauvais choix, des affections qui sont idolâtres, des agissements qui sont coupables. Mais lorsqu'une personne se convertit à Christ, le Saint-Esprit fait sa demeure dans son cœur et la parole de Dieu révèle une nouvelle façon d'agir. L'évangile de Jésus-Christ nous offre une nouvelle façon de fonctionner. Tout cela se fait progressivement, bien sûr, en livrant de plus en plus nos vies à Dieu. Il y a bien entendu des fois où notre vieille nature reprend le dessus. Mais au lieu de nous justifier ou de cacher notre manière de fonctionner, nos fautes, on peut simplement les confesser et saisir le pardon de Dieu et continuer à avancer. Alors comment cultiver cette beauté, cette parure intérieure? En vous émerveillant de Dieu, en vous émerveillant de la grandeur de Dieu, de sa gloire, de sa bonté, de sa grâce. En fait, la connaissance de Dieu change tout. J'ai affiché dans mon bureau ces mots pour m'en souvenir et je les relis régulièrement et je les ai relus tout récemment encore. Dieu est grand. Je n'ai pas besoin de tout contrôler. Vous voyez l'impact ? Quand j'observe Dieu, quand je contemple Dieu, sa grandeur, il fait tourner. C'était la pleine lune hier. J'ai regardé la pleine lune. C'est magnifique. Je dis, mais j'ai vu les étoiles. Je dis, mais Dieu, il est tellement grand. Il gère tout ça. Est-ce qu'il ne va pas gérer mon histoire dans ma vie, là? Non, Dieu est grand. Je n'ai pas besoin de tout contrôler. Quand je dors, la lune et toutes les étoiles, ça fonctionne quand même. Je n'ai pas besoin de tout contrôler. Dieu est glorieux. Je n'ai pas besoin de craindre les hommes. Je crains Dieu. Dieu est bon. Dieu est bon. Je n'ai pas besoin d'aller chercher ailleurs. Qu'est-ce qui pourrait remplir davantage mon cœur? Qu'est-ce qui pourrait me réjouir davantage? Dieu est tellement bon! Il poursuit mon bonheur, ma joie. Lui seul peut combler mon être. Dieu fait grâce. Tout ce que j'ai, c'est sa grâce qui me l'a offert. Je n'ai pas besoin de montrer ce dont je suis capable. Je n'ai pas besoin de faire des exploits. Dieu m'a fait grâce, il m'a accepté tel que j'étais, pécheur, rebelle. Et donc il est évident qu'en m'émerveillant de Dieu, de sa fidélité, de sa patience, de sa sainteté, de sa justice, de son amour, mon cœur se remplit de Dieu. Et alors mes décisions, mes actions, mes affections en seront changées. Toute ma vie, mon attitude envers ma femme, envers mes enfants, envers mes collègues, envers mes voisins, mes semblables, tout sera changé. Ce qui remplit mon cœur devient visible à tous. Alors, ce que dit Pierre ici, c'est choisissez bien votre accessoire. La sainteté est plus attirante que la beauté. La sainteté est plus attirante que la beauté. Le problème, souvent, c'est qu'on a une mauvaise conception de ce que c'est que la sainteté. Quand j'étais plus jeune, la sainteté, c'était l'image que j'avais, c'était un prêtre avec la tonsure, les sandales. C'est assez triste comme vision que j'avais, le couvent froid. Mais c'est pas ça du tout, mais pas du tout, j'ai appris ça après. Et je vous dis que la sainteté est plus attirante que la beauté. Et je vous dis que tous les hommes dans cette salle sont d'accord avec ça. J'ai jamais eu un couple qui parlait de divorcer parce que lui l'a trouvée plus belle. Non. Ça n'arrive jamais, ça. C'est la sainteté qui est désirable par-dessus tout. La personne qui ressemble à Jésus-Christ, elle n'a rien à prouver. Elle ressemble à Christ. Y a-t-il quelqu'un de plus beau, de plus désirable? J'aime ma femme. Je la trouve belle. Ses yeux, ses dents, tout. Mais ce qui me séduit et ce qui fait mon admiration, c'est son cœur. C'est son application dans son travail pour prendre soin des personnes malades, de son service, de leur famille. C'est son intégrité dans ses relations. C'est sa capacité à encourager et à motiver les autres. Je suis admiratif quand elle bloque son mercredi pour étudier la Bible et le counseling biblique et qu'après, le soir, une fois couchée, elle me partage tout ce qu'elle a appris. Ça m'épate. J'aime quand elle rigole avec mes filles, quand elle prie pour les membres de notre cellule. J'aime sa générosité quand elle ouvre sa maison ou son portefeuille. J'aime son humeur joyeuse en tout temps, ou presque. Sa persévérance dans la foi, sa fidélité en amitié. Voilà ce qui la rend attirante pour moi. Et vous avez remarqué, il dit cette parure incorruptible. Ça ne peut pas être affecté et ça va en progressant dans la vie chrétienne, alors que la beauté va dans l'autre sens. Et puis, écoutez ça, Pierre, il dit versets 5 et 6, il cite l'exemple de Sarah, qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. J'aime ça. Remarquez que c'est un petit S, hein. C'est un S minuscule, ça n'a rien à voir avec le Seigneur, elle ne se trompait pas. Non, c'est plutôt une formule, une marque de respect, d'estime. Mais écoutez ça, Pierre, il a vécu 2000 ans après Abraham. Il n'a jamais entendu Sarah appeler Abraham « mon Seigneur ». Il n'a pas eu d'enregistrement audio. Comment est-ce qu'il sait ça ? Il sait ça par la Bible. Et si vous avez dans votre Bible quelques références ou quelques parallèles, il y a une référence en Genèse chapitre 18. Il y a un petit renvoi, Genèse chapitre 18. Vous pouvez chercher Genèse 18, verset 12. Et c'est dans Genèse 18, verset 12, que Sarah va appeler Abraham son Seigneur. Mais je vous donne un peu le contexte. Ici, lorsqu'Abraham avait 75 ans, Dieu s'est révélé à lui et il lui a promis un fils par sa femme Sarah. À présent, il a 100 ans et Sarah en a 90. Et elle n'a toujours pas de fils. Et ce jour-là, en Genèse 18, trois personnes, leur rendent visite. Je lis au verset 10, Genèse 18, 10. L'un d'entre eux, on verra qui c'est au verset 13, dit « Je reviendrai vers toi », il parle à Abraham, « à cette même époque, et voici Sarah, ta femme, aura un fils. » Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge. Et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant « Maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs ? Mon Seigneur aussi est vieux. » Mon Seigneur aussi est vieux. C'est là qu'il a trouvé que Sarah appelait Abraham son Seigneur. Nulle part ailleurs, Sarah parle d'Abraham comme son Seigneur. C'est la seule mention. Et vous avez remarqué que c'est une parole spontanée. Elle était juste derrière la... Elle écoutait et puis elle entend ça. Et elle pense, est-ce que je vais encore avoir des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. Il n'y a pas de réflexion ici. C'est spontané. Et c'est même une parole d'incrédulité, n'est-ce pas? Elle n'y croit pas. Mais ce qui est plus fort encore, c'est que ça n'est pas une parole audible. Vous avez remarqué? Elle rit en elle-même en disant « Mon Seigneur aussi est vieux. » Verset 13 révèle que cette personne qui vient de faire cette prophétie, c'est l'Éternel. Et c'est pour cela que nous connaissons la parole qu'elle a prononcée dans son cœur. Et c'est précisément cela qui est remarquable. Et j'attire toute votre attention là-dessus. C'est parce que c'était prononcé dans son cœur que c'est remarquable. C'est dans le secret de son cœur que Sarah parle de son mari comme de son Seigneur. C'est une parole qui est révélatrice de la manière dont elle considère son mari dans son cœur. Elle a au plus profond de son cœur une grande estime, un grand respect pour son mari. Ce qui est au fond de vos cœurs, c'est ce qui paraîtra. Ça paraîtra dans vos paroles, dans vos choix, dans vos actions. C'est ce qui animera votre vie en public et en privé, et même lorsque vous serez seul. Mais j'entends les femmes qui disent « Oui, mais moi, je ne suis pas mariée à Abraham. » C'est vrai. Vous n'êtes pas mariée à Abraham, mais c'est précisément ce que Pierre est en train de dire. Marcher à contre-courant. Tout le monde est capable de considérer un mari génial. Abraham n'a pas toujours été digne de ce respect. Dois-je vous rappeler, lorsqu'ils descendirent en Égypte, Abraham demanda à Sarah, qui était très belle, de dire qu'elle était sa sœur afin qu'il soit bien traité. Et c'est ce qu'elle a fait. Et elle a été embarquée dans le harem de Pharaon. Et Abraham a reçu plein de cadeaux en remerciement pour sa sœur. Et il s'en est fallu d'une intervention divine pour que sa femme lui soit rendue. Elle appelle mon Seigneur Abraham. Elle l'appelle mon Seigneur parce que c'est ce qu'il doit être. Vous voyez la nuance ? Et c'est ainsi qu'elle le considère. En fait, elle donne envie à son mari de devenir cet homme-là. Par la considération que vous avez, vous rappelez à votre mari ce qu'il doit être. J'ai une illustration. Je voudrais donner ça, mais je voudrais que ça ne change rien à notre relation. Je vous préviens juste. Lorsque je suis devenu pasteur de l'EBTM, il y a 25 ans, j'étais jeune, certaines personnes m'ont tutoyé rapidement et m'ont appelé Vincent. Et j'ai apprécié cela, parce que j'avais besoin d'amitié, j'avais besoin de relations fraternelles. D'autres m'ont appelé pasteur et m'ont vouvoyé. J'avais envie de dire à ces personnes... Appelle-moi Vincent, tutoie-moi. Mais une dame de l'église m'a dit « Je vous aime beaucoup, mais je vais vous vouvoyer et je vous appellerai pasteur parce que c'est ce que vous êtes et j'ai besoin de vous regarder comme tel. » Et ça fait 25 ans que ça dure. Qu'est-ce qu'elle a fait en faisant ça? Elle m'a rappelé la raison pour laquelle je suis venu à Toulouse et la charge qui est la mienne par la considération qu'elle a envers moi. Je ne suis probablement pas à la hauteur du sens et de l'idée qu'elle se fait d'un pasteur. Mais en m'appelant pasteur, elle m'encourage à poursuivre l'image du bon berger. Comprenez la considération que l'on a au fond de notre cœur pour notre conjoint, pour les autres. Elle est impactante dans la vie de l'autre. Si vous considérez, surtout ne changez rien dans votre manière de m'appeler, etc. Si vous considérez bien votre conjoint, au fond de votre cœur, ça se verra. Votre conjoint le percevra et il se comportera probablement comme vous le considérez. Considérez-le mieux, il se comportera mieux. Comment est-ce possible? Mais justement, en considérant ce qu'il sera un jour, en considérant ce que devrait être un mari, c'est ça, marcher à contre-courant dans le mariage. C'est estimer l'autre non pas comme il le mérite, mais comme il ne le mérite pas. Beaucoup mieux. Comme il devrait être, selon sa fonction. Pierre s'adresse à présent au mari en disant, au verset 7, « Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme comme avec un sexe plus faible. » Là encore, les femmes commencent à gesticuler sur leurs chaises. Sexe plus faible. D'autres traductions ont tenté d'adoucir en traduisant en tenant compte de sa nature plus délicate. Mais littéralement, ça dit un vase plus faible. Le mot grec pour faible ici, ça donnait asthénie, c'est-à-dire sans force. Et donc, il ne s'agit pas d'une capacité intellectuelle ou émotionnelle, simplement une capacité physique. Les hommes sont plus forts que les femmes, la plupart du temps. Épargnez-moi les exceptions de catcheuses et de... Non. Par leur constitution physique, par leur carrure, par leur taille, les hommes sont plus forts. Et donc, dans leur rapport, ils pourraient facilement en abuser. Et donc, Pierre, il dit quoi? Il dit, dans vos rapports avec votre femme, faites preuve de sagesse, non pas de force. Gagner au bras de fer contre sa femme, c'est nul. Ayez de la sagesse pour remporter le cœur de votre femme, autrement que par la force. Si vous criez, si vous parlez plus fort qu'elle, ça change quoi? En quoi vous êtes un héros d'avoir fait un truc comme ça? Ça change rien. Et donc Pierre, il dit montrer de la sagesse et il dit honorez-la. Il dit, montrez à votre tour, vous avez remarqué, à votre tour, verset 7. Ça, c'est exactement à votre tour, hein, c'est la même expression que de même qu'on trouve au verset 1. De même, à votre tour, c'est le même. Maintenant, et il vient de dire, vous voyez, femme, vous devez avoir de la considération pour vos maris. Marie, à votre tour, ayez de la considération, honorez-la. Honorez-la. C'est quoi honorer? Prenez soin d'elle. Protégez-la. Pourvoyez à ses besoins. Étudiez-la. Cherchez à la comprendre. Estimez-la. Et il donne comme argument, il n'y a pas de hiérarchie dans la grâce. Elle doit, vous êtes cohéritier des mêmes faveurs. Devant Dieu, il n'y a plus ni homme ni femme. C'est-à-dire, on a le même accès, on a le même privilège d'être dans sa présence pour l'éternité. Nous avons le même accès. Et l'argument massif qu'il donne pour cela, pour les hommes, il dit, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Messieurs, ici c'est comme si Dieu dit, c'est tellement important que tu honores ta femme, que si tu ne le fais pas, j'interromps ma relation avec toi. C'est clair? Si tu n'honores pas ta femme, j'interromprai ma relation avec toi. Calme, hein? Je peux vous dire une chose, si vous n'honorez pas votre femme, votre vie spirituelle va dégringoler. Vous serez un minable, chrétien minable. Parce que la connexion avec Dieu ne se fera plus. Si vous voulez revenir à Dieu, revenez à votre femme, honorez-la. C'est probablement une manière à contre-courant, oui. À contre-courant. Quand Pierre dit au premier siècle, Marie, honorez votre femme, c'est à contre-courant. L'amitié intime du mariage au premier siècle, c'était un concept étranger à la culture gréco-romaine. Les maris ne cherchaient pas à établir une relation d'amitié, de complicité avec leur épouse. La seule chose qu'ils attendaient d'elle, c'est qu'elle s'occupe de la maison et de leur donner une descendance. C'est une marche à contre-courant que Pierre demande au mari chrétien. Honorez-la, faites-la votre égale, aimez-la. Honorer son épouse, c'est la traiter avec considération, avec amour, avec galanterie, comme une partenaire qui a reçu le même héritage de grâce que nous. Et cette manière humble et douce de vivre la relation de couple sert notre propre bonheur. Je termine en conclusion. Jusque-là, les chrétiens devaient se soumettre à des autorités civiles, à des autorités professionnelles, à une autorité familiale, un mari. Mais ici, Pierre va plus loin en demandant le respect envers un sexe plus faible. Ce qui correspond à la manière évangélique de vivre. Les forts se soumettent aux faibles. Ça, c'est l'évangile. Le monde fort soumet les faibles. La manière de l'évangile, complètement opposée à cela. Le fort se soumet aux faibles. Jésus dit, si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le serviteur de tous. Vous voulez être un mari qui dirige sa famille, servez votre famille. De tout votre cœur, passionnément. Jusqu'à la mort, dirait Paul aux Éphésiens, comme Christ. Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le serviteur de tous. Jésus-Christ, sans cesser d'être Dieu, s'est fait simple homme et serviteur de tous. Et même, il a donné sa vie par obéissance. Voilà donc comment les maris chrétiens doivent aimer leur épouse. Et c'est un défi. Un défi que l'on soit un homme ou une femme. Et pour remporter ce défi, il nous faut regarder à Christ pour apprendre de lui pour cette vie. Après cette longue section-là sur Soumettez-vous aux autorités, soumettez-vous à votre patron, soumettez-vous à votre mari. Marie, respectez, honorez votre femme. Il est en train de dire, c'est difficile, n'est-ce pas? Et c'est pour ça qu'il cite le psaume 34. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal, s'élève des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. Et il répète l'argument qu'il avait donné aux hommes. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Je suis très conscient que c'est vraiment une difficulté. Quand tout va bien, tout cela, c'est tellement facile. Mais quand c'est tendu dans un couple, je sais à quel point c'est difficile de considérer son mari grincheux ou rebelle à Dieu, comme son Seigneur. Je suis conscient de la difficulté d'honorer une épouse querelleuse ou mondaine. Mais c'est ce que Dieu nous demande. Et quand Dieu nous demande quelque chose, c'est toujours bon pour nous. Toujours bon pour nous. Toujours bon pour lui. Toujours bon pour les autres. C'est cela, marcher à contre-courant dans son mariage. Et cette voie-là est la seule qui offre une espérance. C'est une voie pour les chrétiens et les chrétiennes uniquement parce qu'elle nécessite la puissance du Saint-Esprit et l'amour de Dieu qui est déversé dans nos cœurs. Et c'est ce qui doit nous donner beaucoup de courage, beaucoup d'espérance, beaucoup de force pour nos couples. Amen. Amen. Prions.